Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au micro, Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale célèbre la Journée internationale des volontaires avec le témoignage d'Amadou Mokhtar Diallo, jeune fonctionnaire au département des affaires politiques et de la consolidation de la paix de l'ONU. Amadou Mokhtar Diallo, bonjour.
Bonjour, Jérôme.
Amadou Mokhtar Diallo, vous êtes fonctionnaire des Nations Unies, vous travaillez à l'unité de planification des politiques, ça c'est au département des affaires politiques et de la consolidation de la paix donc des Nations Unies. Mais avant cela, donc, vous avez eu un passé de volontaire à travers différents programmes. Alors est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de la première phase, comment vous avez découvert le volontariat ?
Quand je faisais mes études, j'étais toujours intéressé au volontariat. Donc, j'étais volontaire en ligne à travers la plateforme des volontaires des Nations Unies avant d'avoir 25 ans. Et après mes études de sciences politiques et de droits de l'homme, j'ai postulé pour le programme des volontaires de l'Organisation internationale de la francophonie parce que c'était une opportunité professionnelle pour un jeune diplômé que j'étais. Donc après cette expérience, j'ai fait le programme des volontaires des Nations Unies parce que maintenant j'avais plus de 25 ans.
Alors revenons d'abord à l'expérience de volontaire international de la francophonie. Comment vous avez entendu parler de ce programme ? Comment ça s'est passé concrètement ? Vous étiez donc au Sénégal. Comment vous avez été amené à participer et surtout à candidater donc à ce programme ?
Quand j'étais étudiant, j'étais très curieux, donc je suivais beaucoup l'actualité, l'engagement, les politiques de jeunesse des organisations internationales parce que j'écrivais aussi mon mémoire de maîtrise sur la participation de la jeunesse dans les organisations internationales et j'avais répertorié ce programme des volontaires de l'Organisation internationale de la francophonie qu'on venait d'ailleurs de mettre en œuvre pas très longtemps. Et donc quand j'ai lu les conditions, quand j'ai lu les compétences qu'il fallait, je me suis dit voici ce qu'il me faut parce que je voulais toujours avoir une carrière à l'international. Donc du coup, j'ai saisi cette opportunité comme une porte d'entrée à l'international.
Est-ce qu'il n'y avait pas de la concurrence ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de candidats ? Vous avez fait un peu votre enquête, des recherches pour savoir si vous aviez une chance ou vous avez foncé ?
Quand j'étais étudiant, j'étais déjà engagé sur les questions de jeunesse, sur les questions associatives, les associations francophones. En plus, entre-temps, je suis parti faire mes études en France, donc ça m'a permis d'avoir aussi un bon réseau, une bonne expérience. Donc du coup, je m'étais dit, j'ai toutes mes chances parce que quand j'ai lu les conditions qu'il fallait, et depuis 2 ans, j'étais en train de travailler à développer ces compétences-là. Puisque quand la première fois le programme a été lancé, je me sentais encore jeune et pas assez d'expérience. Mais quand j'ai lu ce qu'il fallait, pendant 1 an, 2 ans, j'ai travaillé pour avoir les compétences requises. C'est pourquoi quand j'ai postulé, je crois que ça a été plus facile.
Premier poste en tant que volontaire, quel est votre lieu d'affectation et surtout quel est votre mandat ? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire ?
Ma première affectation, c'était à New York, au bureau du représentant permanent de la francophonie auprès des Nations Unies. Donc j'étais assistant de projet chargé des questions de maintien et de consolidation de la paix. Et c'était le premier poste qui a été créé. Donc le mandat, c'était de renforcer le rôle de la francophonie sur les questions de paix et de sécurité et son engagement auprès des Nations Unies. Parce que comme vous le savez, au début, la francophonie se focalisait juste sur les questions de culture, de langue. Donc l'organisation maintenant voulait avoir un rôle beaucoup plus actif sur ces questions de paix et de sécurité. Donc moi, en tant que volontaire international de la francophonie, je suivais les débats au niveau du Conseil de sécurité, essayer aussi de mobiliser les États membres de la francophonie à travers la plateforme Groupe des ambassadeurs francophones pour essayer de créer une certaine concertation. Surtout en 2015, c'était une année cruciale puisque c'était la revue des grandes opérations de paix, mais aussi la résolution 1325 sur femmes, paix et sécurité, mais aussi c'était une année du développement durable.
Clairement, arriver à New York, c'est quand même un choc. D'abord, il y a la ville, il y a l'ONU, le siège des Nations Unies, et puis les autres organisations du système qui gravitent autour. Tous ces ambassadeurs dont vous venez de nous parler, comment vous l'avez vécu ça? Est-ce que vous vous prépariez à ce genre de choc ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui, pour vous, a été naturel?
C'était naturel parce que je suis venu à New York en décembre 2014, mais avant ça... Déjà en 2011, en tant que jeune étudiant, j'étais invité à l'Assemblée générale par le président de l'Assemblée générale de cette époque, puisque, comme je vous le disais, j'étais actif sur toutes les questions de jeunesse et des Nations Unies. Donc, on m'avait invité dans le cadre de l'année internationale de la jeunesse. C'était en 2011. Donc, ça m'avait déjà donné un petit aperçu de ce qui m'attendait. Mais bien sûr, venir à New York, travailler, c'était différent. Parce que là, c'est le milieu diplomatique, c'est le protocole diplomatique, c'est aussi les bonnes manières diplomatiques et tous les codes diplomatiques. Donc du coup, c'était ce à quoi j'aspirais. Mais c'était une expérience très, très, très utile du point de vue de travailler tous les jours aux Nations Unies avec des personnes de haut niveau venues de plusieurs pays.
Alors on parle de francophonie, on est à New York, vous êtes certes avec le siège donc du représentant de la francophonie auprès des Nations Unies, mais également il faut parler sans arrêt dans d'autres langues, notamment l'anglais. Donc est-ce que ça c'était quelque chose de naturel?
Oui, parce que maintenant notre génération, heureusement nous sommes une génération de plus en plus ouverte où les gens parlent plusieurs langues. Surtout quand on veut faire une carrière internationale. Donc du coup, c'était quelque chose à laquelle je m'étais préparé. Mais bien sûr, j'ai fait toutes mes études en français dans un milieu francophone. Donc venir travailler à la fois dans un milieu francophone qui est la francophonie aux Nations Unies où il y a une forte présence de l'anglais, mais aussi habiter dans un quartier espagnol. Donc pour moi, c'était... du vrai multilinguisme.
On parle de défis en termes de langue, mais il y a aussi donc, ce travail à préparer. Vous disiez qu'il fallait renforcer au sein de la francophonie. C'était le mandat que vous aviez à travers notamment les mandats de paix et de sécurité. Donc il y avait tout un travail, il y avait tout un dossier à monter. Est-ce que c'était exaltant? Est-ce que vous aviez les coudées franches?
Oui, c'était très intéressant parce qu'aussi on avait vraiment une équipe au sein de la francophonie qui nous soutenait beaucoup, qui renforçait nos capacités et qui aussi donnait de la valeur à nos idées. Donc ce travail d'engagement avec le Conseil de sécurité, c'était quelque chose de très magnifique. Et pour la première fois en 2016-2017, la secrétaire générale de la francophonie à cette époque avait parlé au sein du Conseil de sécurité pour la première fois dans l'histoire de la francophonie. Donc ce travail a eu un effet positif.
Il y a eu ce volontariat avec la francophonie, puis il y a aussi le volontariat avec les Nations Unies. Donc là, pareil, vous rentrez à Dakar et vous, à nouveau, prenez vos ordinateurs, vos contacts, le centre d'information, toutes les ressources possibles. Et vous tombez par hasard ou vous saviez déjà qu'il y avait ces volontaires des Nations Unies dont le siège est basé à Bonn?
Oui, je connaissais le programme volontaire des Nations Unies. Il faut avoir 25 ans pour faire ce volontariat. Et quand je suis rentré au Sénégal, j'ai passé à peu près un mois au Sénégal en train de chercher et un jour il y avait une dame qui était chargée des ressources humaines qui est venue de Bonn à Dakar pour nous expliquer comment on fait les candidatures parce que j'avais déjà mon dossier sur la plateforme et quand elle est venue, elle a fait ce séminaire là avec nous et donc deux semaines après mon dossier a été présélectionné donc j'ai fait l'entretien. Ça avait initialement marché, mais après ils ont dit non pour des raisons de représentativité géographique. Mais 50 jours après, j'ai eu un nouveau poste.
Alors le nouveau poste, donc, il se passe en République centrafricaine. Le premier, avec la francophonie, vous étiez donc à New York. Là, on passe à un tout autre registre, en 2016, dans un pays qui est en pleine reconstruction, qui vient de connaître des soubresauts importants et qui est encore donc exsangue et connaît une très grande insécurité et des violences. Comment vous êtes arrivé? Est-ce qu'il y avait des mesures de sécurité particulières? Est-ce qu'au contraire, vous vous sentiez un peu comme un poisson dans l'eau, étant déjà un Africain qui va dans un autre pays africain, un frère?
C'était quelque chose de très difficile parce que avant j'ai passé une partie de mes études en France, donc après je suis venu à New York, dans un pays, le pays le plus développé économiquement, faire cette transition dans un pays, un des pays les plus pauvres. Donc c'était pas quelque chose d'évident, mais l'enthousiasme du jeune volontaire voulant contribuer sur le terrain, parce qu'à New York on est plus dans la théorie, dans les politiques, de ce qu'on doit faire, mais sur le terrain, c'est la réalité. Donc avoir ce contact avec la population, avec les groupes armés, avec les autorités locales, j'étais très enthousiaste. C'est vrai, les conditions de sécurité n'étaient pas extraordinaires, mais on avait à cette époque réussi à une certaine stabilité, quand même créer les conditions minimum pour faire notre travail.
Donc là, en RCA, beaucoup plus de concret, beaucoup plus de pratique. Vous restez combien d'années dans RCA ?
Je suis resté en RCA pendant 2 ans, donc de 2016 à début 2018.
Et donc, vous avez pu développer là aussi, par rapport au mandat qu'on vous a fixé, des choses non seulement concrètes, mais des choses qui permettent d'avoir un impact et qui sont encore aujourd'hui peut-être à mettre en exergue ?
Oui, j'étais affecté dans un bureau de terrain qui s'appelle Paoua. Donc, c'est au nord-ouest de la Centrafrique, entre la frontière entre la Centrafrique, le Cameroun et le Tchad. Donc, cette zone, avec le chef de bureau, avec les équipes du bureau de terrain, nous avons réussi vraiment à créer une certaine confiance, une certaine stabilité, une certaine réconciliation entre les populations, surtout musulmanes et chrétiennes. Comme vous le savez, il y avait des tensions autour de ces questions-là. Et aussi créer, renforcer la capacité des autorités de l'État à assumer un rôle aussi minime qu'il soit, parce que la Centrafrique, c'est un pays où l'autorité de l'État est très faible et parfois même absente de plusieurs parties. Donc, et aussi développer des relations humaines profondes, puisque c'est sur le terrain où on sent vraiment la présence des Nations Unies, parce que ces populations, tout leur espoir repose sur les Nations Unies. Donc du coup, ça crée aussi une certaine responsabilité morale, ce devoir d'agir. Je ne fermais jamais mon téléphone parce que je pouvais être réveillé à tout moment, et j'étais dans un camp militaire. Donc c'était une vie de militaire, on pouvait se réveiller à tout moment, et le travail, ce n'est pas ici comme à New York, on dit c'est du lundi au vendredi de 9h à 17h. Là-bas, c'est à tout moment. C'est une expérience où on voit le résultat de notre action et on voit aussi les conséquences de notre inaction. Donc, c'est vraiment orienté sur l'action, sur nos clients, ce qu'on peut appeler nos clients en termes marketing, c'est la population. Et aussi, Jérôme, quand on voit un enfant nous sourire parce qu'on a fait un bon travail, quand on libère des otages pris par des groupes armés, quand on permet à des populations pauvres et démunies d'avoir de l'eau potable, quand on construit des hôpitaux, du point de vue humain, on voit vraiment qu'on est utile. Et à New York aussi, on est très utile, bien sûr. Mais parfois, à New York, on est dans la théorie. Donc parfois, on ne voit pas trop l'impact de notre action. Or, sur le terrain, vraiment, c'est du concret. Et ça en manque, j'avoue.
Amadou Mokhtar Diallo, merci. Donc, je rappelle que vous témoignez de votre parcours de volontaire, tant avec la francophonie qu'avec les Nations Unies. Et donc, nous fêtions ensemble cette fameuse journée internationale des volontaires 2019. Merci.
Voilà, c'est la fin d'Escale, un magazine préparé et présenté cette semaine par Jérôme Longuet avec la collaboration de Carlos Macias. Un programme d'ONU Info à retrouver avec nos journaux quotidiens, nos vidéos et articles sur Internet et sur les médias sociaux. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.